Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la ligne éditoriale et pourquoi c'est en fait important de s'y mettre et pourquoi en fait j'en ai créé une. En fait, c'est quelque chose que j'avais un peu négligé pendant pas mal de temps. Souvent en fait, quand on a commencé comme ça, un petit peu tôt comme moi en 2006 à créer son propre blog, j'avais jamais à l'époque pensé à rédiger une ligne éditoriale parce que simplement à l'époque c'était un blog personnel. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment essentiel qu'il y a allez, moins de 2 ans, grosso modo, tout simplement parce que ça permettait d'être pour moi une boussole, une guide, enfin un guide plutôt, et savoir en fait où aller en termes de création de contenu. Et je me suis rendu compte que même pour un blogueur pro ou amateur, un community manager, même un web marketeur, c'est un ou un youtubeur, hein, il est vraiment important d'écrire une ligne éditoriale dès qu'on produit du contenu, même si c'est que quelques lignes, 4 lignes, 4, 5, 10 lignes, bref, c'est vraiment important d'aller clarifier ce qu'on veut faire. La ligne éditoriale, en fait, ça va permettre de savoir pourquoi on écrit du contenu, le but à atteindre et en fait ce qu'on entend et ce que vous voulez en termes de contenu. Ça permet vraiment de cadrer sa production de contenu et éviter un effet qu'on voit souvent lorsqu'on est blogueur ou qu'on est manager. C'est un petit peu d'écrire au feeling ou selon un peu ce qui arrive, les actualités, ou de réagir tout simplement à une newsletter ou à quelque chose qu'on a vu ou à ce qu'a fait un concurrent. D'ailleurs, ça peut être aussi une stratégie. Moi, en fait, je l'ai eu et je l'ai encore ici partiellement. Dans certains domaines d'activité, je réagis aux publications de mes concurrents. Et ça, c'est un moyen en fait d'aller les contrer. Exemple, vous recevez une newsletter d'un de vos concurrents et en fait, vous vous rendez compte qu'il parle d'une thématique, d'un sujet qui pour vous est important et qui est stratégiquement essentiel pour vous d'être présent sur cette thématique-là. Donc, vous voyez un article qui fait par exemple 1000 mots sur la thématique-là. À ce moment-là, vous pouvez choisir en fait de le contrer. Alors, le contrer, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez tout simplement choisir les mots-clés qui sont les plus importants et vous allez faire un article qui va être bien meilleur, bien plus détaillé et vous allez comme ça en fait contrer son effet de sortie. Vous pouvez également essayer de le contrer mais en version défensive, c'est-à-dire que la personne elle a fait un contenu qui est assez sympa et qui est bien, mais vous n'avez pas le temps en fait de faire un contenu supérieur. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites uniquement un contenu défensif en vous positionnant exactement sur les mots-clés les plus importants et vous allez tout simplement faire un contenu certes moins intéressant mais en apportant un petit peu votre point de vue, votre conseil et vous allez en fait synthétiser ce qu'il a dit lui en beaucoup plus de phrases, vous allez vraiment le faire en très peu de phrases. Et ça permet en fait de contrer des concurrents. Cette partie contrage du concurrent, il faut faire attention à ne pas l'avoir trop dans son blog principal. Puisqu'en fait, si vous le mettez trop dans votre blog principal chaque fois, ça va se voir. Moi, en fait, justement, quand je fais cette technique-là, je suis ça dans un blog secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le blog principal de l'entreprise. Et ensuite, dans un blog secondaire, je mets un petit peu des blogs un peu défensifs en me positionnant comme ça sur des petites expressions. Alors, le but étant vraiment de se dire, tiens, je vais pas laisser le champ libre à mon concurrent. Donc ça c'est une petite astuce hein, comme je vous disais. La méthode offensive c'est tiens il a parlé d'un sujet, moi je vais en parler mieux parce que je suis un spécialiste encore plus, je vais donner des cas clients et tout ça. Deuxième chose, c'est le défensif que vous pouvez mettre soit sur un blog annexe, ce qui est compliqué parfois parce qu'en termes de référencement, ça nécessite quand même d'animer un deuxième blog, ce qui est un peu lourd. Ce que vous pouvez faire également, c'est publier avec une date antérieure, c'est-à-dire que vous publiez à 2 mois, 3 mois d'affilée, avant la date du jour, le contenu, et après vous le repartagez sur Twitter, et bam, ça permet de lui donner un petit coup de pouce, en fait, et le faire détecter par Google. Voilà. Alors, donc, ça c'était une petite parenthèse qui peut être en fait dans votre ligne éditoriale de dire voilà, mes deux trois concurrents principaux, je ne dois pas leur laisser le champ libre, et dès qu'ils produisent quelque chose d'intéressant et qui marche un peu sur mes plates bandes, tac, je dois essayer de les contrer. Voilà. Donc, ça c'était un exemple. Mais en fait, moi, ma ligne éditoriale, je l'ai créée donc il y a à peu près 2 ans parce que le blog a plus de 12 ans et en fait, je m'étais rendu compte que je m'étais éparpillé sur pas mal de thématiques. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent, mais conseil marketing, ouais, c'est la référence, mais dans quoi? Dans le marketing. Sauf que le marketing, c'est un peu vague et maintenant, être une référence dans le marketing, c'est devenu compliqué. Il vaut mieux en fait être par exemple le spécialiste de Facebook Ads, le spécialiste de Google Ads, le spécialiste je sais pas, du content marketing, parce qu'en fait, comme ça, vous serez identifié tout de suite comme un leader et puis les gens qui vont vous faire confiance diront, ah oui, mais je vais faire appel à ce gars-là parce que c'est un spécialiste. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'avais gardé à l'époque, il y a 12 ans, hein, le web n'était pas très compliqué, j'avais toujours cette partie e-commerce. J'avais toujours cette partie bloguer comme bah, gagner, bloguer pour gagner de l'argent, etc. J'avais même des trucs de développement personnel. Et en fait, j'ai un petit peu élagué dans ces contenus-là. Si vous regardez maintenant sur Conseil Marketing, bah, il n'y a plus e-commerce home page. J'ai décidé un petit peu de relâcher la thématique parce qu'en fait, c'est une thématique qui est quand même beaucoup plus compliquée, qui n'est pas facile en fait à faire évoluer. Moi, je suis devenu vraiment spécialiste du B2B. Donc, j'ai un petit peu supprimé ça. J'ai gardé les contenus parce que ça me génère un peu de trafic, j'ai un peu d'affiliation là-dessus. Mais en fait, je ne fais plus du tout apparaître ça en home page. Si on regarde également dans les pages à propos, j'ai refait un peu. J'ai parlé que je me concentrais sur le B2B. J'ai supprimé tout ce qui était le B2C, la vente de produits pour les particuliers, etc., etc. Donc en fait, moi, ça m'a permis de me recentrer sur ma valeur et de définir, voilà, qui sont véritablement lecteurs et plus écrire pour moi ou écrire en opportunisme. Et en fait, j'ai commencé par écrire un petit Google Docs, hein, assez simple. Au début, ça faisait quoi? Ça faisait une petite page. Et maintenant, en fait, j'en suis quasiment à 5 pages. Et je pense que je devrais encore augmenter en faisant quelques pages de plus très prochainement. Parce qu'en fait, ça me permet de cadrer ce que je fais. Alors, vous allez dire, mais Fred, t'es tout seul? Oui, j'ai une assistante. Hein, des fois, je fais même appel à des rédacteurs externes. Mais je le fais également pour moi. C'est pas que pour les autres, c'est pour moi. Parce que ça me permet de matérialiser, de me dire, Fred, maintenant tu dois arrêter de faire ceci, cela. Par exemple, ça m'a servi en fait à me dire, maintenant je refuse les guest postings qui sont pas dans ma ligne éditoriale, justement, qui sont dans le B2B, qui sont dans la création de contenu, etc. Et ça, c'est vrai que ça m'a servi même un peu d'alibi, entre guillemets, et de justificatif en disant, voilà, oui, j'aimerais bien te publier un article sur mon blog, mais désolé, maintenant ça fait plus partie de la ligne éditoriale, je peux te proposer un autre blog que j'anime dans mon réseau de blog ou des choses comme ça. Voilà. Et voilà, moi je vous incite vraiment à le faire parce que ça vous permettra de plus être porté par votre envie et réagir à une actualité, l'article d'un concurrent, etc. Ça vous permet en fait d'avoir de la cohérence entre les différents articles. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah voilà, j'écris pour telle personne, tel persona, et je vais en fait construire mon contenu de telle manière aux alentours, pour en fait avoir une cohérence entre tout. D'ailleurs, c'est aussi également utile si vous faites en fait du guest posting, ou vous faites des articles invités, ou vous invitez des experts à écrire des articles sur votre blog, ou même des employés ou des collaborateurs de l'entreprise. Puisqu'en fait, vous allez définir là le ton, la manière dont vous allez parler, la structure en fait des articles, etc. Ce qui vous permettra d'avoir une cohérence d'une à l'autre et d'éviter, moi, ce qui m'est arrivé pendant très longtemps sur Conseil Marketing, et même ça m'est encore arrivé il y a quelques semaines de ça, lorsque j'ai fait publier en fait par un de mes contacts un article sur le blogging. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a employé du tu, il a employé des verbes qui étaient très très familiers. Alors, ce que moi en fait je fais pas, je dis je vous vois, j'essaie un petit peu de, même si j'écris comme je parle, je suis pas à dire putain, vas-y, y va, la wesh, etc. Donc moi je mets pas du tout ces trucs-là, c'est pas du tout dans ma ligne éditoriale. Et la personne a dû faire ça, donc j'ai dû réécrire. Et c'est vrai que a posteriori, je me suis dit merde, j'aurais dû partager avec lui ma ligne éditoriale pour qu'il comprenne ce que je veux. Parce que parfois aussi, des gens ils comprennent pas. Quand on fait appel par exemple à un rédacteur externe ou on laisse quelqu'un écrire un article sur mon blog, et eh ben j'ai beau leur dire oui, c'est un article de qualité, oui, il faut apporter de la valeur, il faut faire ceci, cela, eh ben, je suis obligé de réécrire une bonne partie des contenus parce que c'est pas dans la ligne éditoriale. Et eh ben, maintenant, grâce à cette ligne éditoriale-là, ben, je peux dire ben, voilà, ce que j'attends de toi, c'est exactement ça. Et donc moi, ça me permet vraiment d'avoir une cohérence et pas d'un côté des articles de 500 mots, des articles de 4000 mots, même si ça existe, puisque dans ma ligne éditoriale, justement, j'explique dans quel cas j'accepte de faire un petit article. Vous les verrez, chez moi, j'ai des petits articles qui font 500, 700 mots. Et pourquoi en fait je fais des gros articles de 4000, 5000, 10 000 mots en fait. Et ça me permet donc bien sûr d'être cohérent aussi au niveau de Google et au niveau de mes lecteurs qui permettent de se dire, bah voilà, oui, Conseil Marketing, c'est vraiment des articles de référence qui vont au fond du sujet. Et ça évite donc cette déception des gens qui voient un super article et puis après ils disent, mais c'est quoi ce truc-là? C'est un peu de la merde quoi. Donc c'est vraiment important de faire ça. Et quand vous avez plusieurs rédacteurs, bah forcément vous allez maîtriser mieux votre image. Donc la cohérence est vraiment un des mots-clés, c'est la colonne vertébrale de votre production de contenu. C'est vraiment la ligne éditoriale, c'est vraiment là-dessus. C'est elle qui permet de tout faire aller dans le bon sens. C'est vraiment la ligne directrice. C'est pas juste la forme, c'est également où on veut aller, pourquoi on y va, parce que vous allez définir votre mission, La mission, c'est quoi? C'est pourquoi vous tenez ce blog-là, hein, ou pourquoi en fait vous avez cette chaîne YouTube et pourquoi vous produisez du contenu. Votre vision. Votre vision, c'est ben, qu'est-ce que vous allez donner comme type d'information? Ça peut être très positif, ça peut être très négatif, ça peut être, par exemple, comme Bruno Fredranski, dans ses contenus, il est souvent un petit peu, comment dire, critique sur les choses qui se font, c'est entre guillemets, sans le savoir, il a une ligne éditoriale. De dire, bah tiens, voilà, moi je suis le poil à gratter du social media et je dénonce un petit peu les mauvaises pratiques et tout ça. Et ça peut être une ligne éditoriale, une ligne directrice. Et ça, vraiment, ça vous permet d'aborder donc la forme, le format, le fond, les termes, la structure d'un article, etc. Moi, je définirais en fait comme ça la ligne éditoriale, hein, c'est. Ça permet de donner une cohésion globale à l'ensemble des œuvres ou des contenus produits, et une ligne éditoriale exprime l'identité d'une entreprise ou d'une personne. Ça, c'est ce qu'on voit un petit peu dans Wikipédia. Moi, en fait, je suis un petit peu plus terre à terre. Je dirais que la ligne éditoriale, c'est votre boussole. C'est elle en fait qui vous explique en fait en termes de documents de référence. Dès que vous produisez un contenu, vous faites produire un contenu, vous pouvez savoir si vous devez le faire ou pas d'ailleurs. Vous devez savoir comment le faire. En fait, ça permet d'avoir cette cohérence-là. C'est la matérialisation de votre mission, de votre personnalité et ce que vous voulez conduire. C'est vraiment une boussole. Et en fait, voilà, ça vous permet de savoir exactement. Pourquoi vous allez pouvoir réussir dans votre stratégie de content marketing et pourquoi en fait certains échouent? Parce qu'ils ont oublié cette partie cohérence, ils ont oublié cette mission et ils produisent en fait du contenu pour une thématique ou ils produisent un petit peu au fil de l'eau. Voilà. Donc cette ligne éditoriale, j'en parle dans un article sur le blog que je vous invite à lire. Hein. Vous tapez tout simplement pourquoi et comment créer une ligne éditoriale et vous verrez en fait ben, pourquoi c'est important. Alors justement, pourquoi lorsqu'on fait de la création de contenu, la cohérence est vraiment importante? Tout simplement parce que moi je pense que véritablement on ne peut pas se poser comme un leader dans une thématique ou pour une cible, si on passe en fait d'un contenu qui va du coq à l'âne. Si un jour moi je vous parle de Google AdWords et après je vous parle, je sais pas, de carte de visite, bah, ça va aller trop, ça va être trop différent, les gens ne seront pas à vous associer. C'est un des problèmes que j'ai eu pendant très longtemps avec conseilmarketing.com, puisqu'en fait tout simplement bah, je bloguais sur tout. Parce qu'à l'époque que j'ai créé le blog, c'était en 2006, personne ne parlait de marketing ou presque sur le web, et donc j'abordais à chaque fois des problèmes du quotidien. Je faisais, tiens, j'avais un problème de carte de visite, j'expliquais sur le blog comment on faisait les cartes de visite. Je voulais mettre en place un communiqué de presse, j'expliquais comment j'avais fait. Bref, ça me servait de vide-poche, d'aide-mémoire, et je passais vraiment du coq à l'âne. Sauf qu'en fait, maintenant, je me rends compte que ben, mon blog, conseilmarketing.com, a un problème, c'est que personne n'arrive vraiment à m'identifier comme leader dans un secteur. À part le growth hacking, parce qu'en fait, ben, j'ai écrit un bouquin et j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, et encore, j'ai peut-être écrit 10 articles sur le blog. Uniquement 10 articles. Si j'avais pas écrit de bouquin, ben, j'aurais été un inconnu parmi tant d'autres. Parce qu'en fait, je ne suis pas perçu et reconnu comme un leader d'une thématique précise. Je suis spécialiste du marketing. Alors maintenant, bien sûr, j'ai changé. Hein. Si on regarde le blog, tout simplement, je suis spécialisé dans le marketing B2B. Je le mets dans le à propos. Je l'ai changé quoi, il n'y a même pas un an, le à propos. J'ai pas encore changé le logo, mais normalement, je devrais mettre le logo bientôt en place en faisant un focus là-dessus. J'ai pas supprimé, parce que ça aurait été dommage de supprimer des articles e-commerce, alors que je suis bien référencé sur certains mots-clés. Mais donc, j'ai supprimé la home page. Bref, j'ai restructuré et j'ai requalifié justement pour avoir un éditoriale qui soit vraiment totalement cohérente. Et même au-delà des articles abordés d'une thématique à l'autre, c'est tout simplement parce que moi je fais appel à des rédacteurs, je faisais du guest posting, j'en fais beaucoup moins, beaucoup beaucoup moins justement parce que dans ma ligne éditoriale j'ai dit de plus en plus, Fred, tu fais pas appel à des rédacteurs externes parce que tu passes autant de travail à réécrire un article, à l'améliorer et à le rendre conforme à ta ligne éditoriale qu'à l'écrire. Et puis surtout en fait les gens qui le font, parfois en fait ils abordent des sujets qui ne sont pas les miens. Par exemple, là, j'ai lundi un article qui va paraître sur RankMath, qui est en fait un RankMath SEO, qui est un plugin WordPress. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait en fait la thématique que je vais aborder. Mais c'est vrai que le guest posting était vachement sympa. La personne qui me l'a proposé m'a dit, tiens, regarde, j'ai fait un truc bien. Et c'est vrai que ce plugin, je voulais tester. Je l'ai testé, je l'ai installé en interne. Et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, je fais une pierre deux coups. Mais il y a d'autres guest postings comme ça. Il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé de faire un guest posting dans l'e-commerce. J'ai dit non, moi je suis désolé, je ne sais plus dans ma ligne éditoriale. Et donc justement, d'avoir sa ligne éditoriale permet de se dire, j'y vais et j'y vais pas. Et justement, en l'absence de cette ligne directrice, eh ben, on va nuire à l'université. l'uniformité de ses contenus, à sa cohérence, et on ne sera pas perçu comme un leader dans une thématique. Même si vous faites par exemple des contenus thématiques sur, par exemple, je sais pas, l'e-commerce, le problème c'est que si à un moment vous parlez d'e-commerce pour les très gros e-commerçants, puis les tout petits e-commerçants, et vous passez de l'un à l'autre, en fait il y a une dissonance ou une déception, et les gens en fait vont pas vraiment se retrouver. Si par contre vous avez une cohérence dans vos contenus, à la fois en format et en contenu, ça va être beaucoup mieux. Pareil, moi, j'ai maintenant 2-3 formats maximum de contenu. Avant, je faisais des e-writing avec une petite vidéo et puis une image, etc. J'ai arrêté. Je faisais aussi des infographies avec une traduction d'infographie en anglais. J'ai arrêté. Je fais maintenant soit un article hyper précis dans une thématique. Par exemple, là, vous avez sur mon blog comment visiter un profil LinkedIn en manière anonyme. Par exemple, j'ai fait aussi comment créer un article sur LinkedIn, comment télécharger ses archives sur LinkedIn. Ça, c'est des articles hyper précis qui font 500 à 700, voire 1000 mots maximum, mais qui sont hyper pointus. Et en même temps, et sur ma thématique que je souhaite, hein, parce que j'ai une formation sur LinkedIn, donc je veux pousser cette thématique-là. Et en même temps, j'ai des articles qui font 3-4 000 mots, qui sont des articles quand je veux vraiment faire être présent dans un mot-clé, une expression de référence. Et j'ai mes articles piliers qui font 10 000 mots, grosso modo, qui sont des articles qui sont sur le blog et qui sont là pour générer du trafic et capter un max de trafic. Voilà. Et ça, souvent, c'est des articles un petit peu historiques que j'ai amélioré depuis des années. Voilà. Donc, ma ligne éditoriale, moi, je l'ai travaillée comme ça. Et je peux vous dire que vous, si vous le faites tout seul, ça peut vous prendre uniquement 30 minutes. Si vous êtes tout seul, vous posez juste les bonnes questions. Et ça, on les verra juste après. Il y a 8 étapes. Et ensuite, si vous avez une équipe de rédacteurs, si vous travaillez dans une entreprise, ben en fait, ça vous prendra plus de temps parce qu'il faudra valider avec la direction marketing, avec la direction générale, etc. Puis les autres rédacteurs, s'ils sont OK. Mais c'est vraiment important de travailler là-dessus. Votre ligne éditoriale permettra de voir le ton, la voix, les messages à faire passer. Ça permettra de vous guider, vous permettre en fait que même si vous êtes en vacances, même si vous n'êtes pas là, si vous êtes sous-traité, votre contenu va être nickel. Voilà. Donc, quatre bonnes raisons d'écrire votre ligne éditoriale en 1 heure chrono. Bah, c'est simple, c'est une Bible qui va pouvoir vous aider et vous guider pour savoir où vous allez et ce que vous allez faire. Je vous disais tout à l'heure, c'était la boussole. La ligne éditoriale va juste formaliser les choses. Et ça vous permet aussi de justifier et aussi de décrire les choses. Parce que si vous le gardez uniquement dans votre tête, parfois bah, on oublie, on passe à un truc, etc., etc. Ensuite, la ligne éditoriale est importante pour la question technique. Moi, ça me permet de faire une petite checklist et savoir exactement bah, qu'est-ce que je dois faire quand je vais publier un article, les éléments à vérifier, etc., etc. Mais vous pouvez le faire également pour des vidéos YouTube. Hein. Ça marche de la même manière. Donc, raison numéro 1, ça vous permet vraiment d'être en résonance avec votre auditoire et de pouvoir vraiment le convaincre. Un des points majeurs vraiment de la ligne éditoriale, c'est que vous n'allez plus écrire pour vous, mais vous allez vraiment écrire pour séduire et attirer une cible particulière. En parlant de ses problèmes, en parlant de ses besoins, vous allez vraiment vous concentrer là-dessus et vous n'allez pas vous éloigner en parlant de sujets qui n'ont rien à voir. Voilà. Pour ça, vous devrez, on verra tout à l'heure, pensez vraiment aux personas, à leurs désirs, leurs attentes, etc. La deuxième chose, créer des contenus les plus cohérents les uns avec les autres. Parce qu'en fait, moi, je m'en compte, hein, j'ai une formation sur marketing automation, et quand en fait on fait du marketing automation, souvent, bah, on a des messages qui sont faits uniquement pour être écrits avec un appel à l'action, donc tout le contenu est dans le message. Et souvent, en fait, les messages de marketing automation ne sont pas que ça. C'est un message qui dit, ben tiens, allez voir un témoignage client, allez voir une checklist ROI, allez voir un outil qui permettra simplement de savoir quoi faire, un outil gestion de projet, des cas clients, des choses comme ça. Et donc, en fait, si vous n'avez pas cette ligne directrice qui vous dit, bah, là, tiens, tel type de contenu, tu dois créer à telle date, etc., etc., et bien, enfin, ça, c'est pas vraiment dans la ligne éditoriale, mais c'est dans la philosophie, en disant, voilà, je dois aider les personnes, je dois leur donner des infos de telle manière, telle manière, telle manière pour les convaincre, ben, vous allez tout de suite aller beaucoup plus facilement créer les contenus en question et avoir votre plan, en fait, de publication. Hein. Et ben, avec ça, vous allez pouvoir savoir quel contenu vous devez créer en priorité. Et pas vous laisser porter au fil de l'eau. Voilà. Donc, par exemple, ça vous permet aussi de recibler un petit peu ce que vous devez écrire. Imaginons que vous voulez vendre des produits pour les femmes enceintes, des écharpes de portage par exemple, ou des baby cooks que vous voulez vendre en fait aux gens qui vont avoir des bébés. Et ben en fait, c'est totalement différent. Si vous voulez vendre des écharpes de portage, vous n'allez pas parler des bébés d'1 ou 2 ans. Vous allez parler des bébés qui vont naître sur la grossesse, sur l'accouchement et tout ça. mais vous n'allez pas parler de comment élever son enfant, comment l'aider à faire pipi caca, etc. Non, c'est trop tard. Il faut vraiment arriver en amont. Donc en amont de l'acte d'achat, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? J'aime bien aussi, par exemple, il y a un blog comme Mailchimp qui est assez intéressant parce que on retrouve en fait à tous les niveaux cette cohérence de la ligne éditoriale, aussi bien les textes, les conditions générales de vente, le petit singe qui est partout, la notion de conseil qui est client, qui est orienté client, bref, tout ça. Donc la ligne éditoriale sert vraiment à garder cette cohérence, à valider le persona aussi avec l'ensemble des personnes de l'entreprise, hein. Ça permet tout simplement de se dire aussi comment vous voulez être perçu par vos clients. Et si vous voulez être perçu comme un expert, et bien tout simplement vous dire mais quel contenu je dois faire pour être perçu comme un expert. Faut que j'ai des cas clients, faut que j'ai des exemples, faut que j'ai des thématiques, faut que j'ai des checklists, faut que j'ai des articles de référence, bref, tout ça, ça vous permet vraiment de revenir sur vos fondamentaux et vous dire bah tiens, comment je vais contrer mes concurrents? Qu'est-ce qu'ils font de manière un petit peu différente? Moi, ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est toujours d'aller sur SEMrush ou des produits comme cela pour voir en fait quels sont les sites majeurs de votre activité, quelles thématiques en fait ils abordent, comment ils le font, les listes des mots-clés, les contenus qui marchent le mieux, etc., etc. Ça vous permettra véritablement de voir comment vous pouvez vous positionner, si vous pouvez les prendre un peu de trafic chez eux, hein, avec des trafics intéressants au niveau d'articles de blog, de contenu, d'expression, vous allez pouvoir en fait capter, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et là, vous faites sur vos 10 premiers concurrents, quoi. Vous pouvez également surveiller votre e-réputation, hein, directement. Ça aussi, c'est lié un petit peu lié à la ligne éditoriale. C'est-à-dire que voilà, ce qui m'intéresse, c'est également d'être leader sur tel truc. Et je vais mettre en place une surveillance sur tel mot-clé, sur tel concurrent, et je regarde en fait ce qu'ils font. Je l'ai dit, on peut également utiliser donc en mode défensif sa création de contenu, hein. Il y a un concurrent qui passe un article intéressant sur telle thématique, qui est dans votre thématique clé majeure, parce que vous faites, tac, vous allez produire un contenu défensif, publier une date antérieure et que vous allez partager sur Twitter pour un petit peu lutter contre lui. Et vous allez voir après, sur le mot-clé et l'expression donnée, qui gagne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? Et s'il faut, vous ajoutez un peu de contenu, vous ajoutez des liens et bam, comme ça, vous allez le contrer sur sa thématique. Voilà. Donc le cadre précis aussi, c'est simple, hein, le cadre précis, c'est tout simplement tout ce qui est le style. Est-ce que vous allez tutoyer? Est-ce que vous allez vouvoyer? Est-ce que vous faites de la ponctuation? Moi, par exemple, j'essaye de faire des phrases courtes. À chaque fois, en fait, mon plugin SEO, je vous l'ai déjà dit lequel c'était Rank Math SEO, me dit que mes phrases sont pas hyper lisibles. Bon, j'essaye de faire ce que je peux, mais j'essaye vraiment de mettre des puces, j'essaye de mettre des numéros, j'essaye de réduire à 3-4 lignes maximum des phrases. Bref, tout ça me permet d'améliorer la lisibilité et de me dire, tiens, voilà, ce que je dois faire idéalement, c'est ça. C'est ma ligne éditoriale et ça me permet d'avoir une grande cohérence. Donc les piliers en fait d'une bonne ligne éditoriale, c'est simple, c'est qui et comment. Si vous êtes seul, c'est simple, hein, vous listez votre persona, votre mission, le format de vos contenus, etc., etc. Dans une entreprise beaucoup plus importante, vous pouvez brainstormer avec des réunions de travail, etc. Donc quand vous la créez et quand elle doit être mise à jour. Généralement, une ligne éditoriale, ça se fait une fois, mais ça évolue régulièrement. Le minimum, mais vraiment le minimum que vous devez faire, c'est tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? Parce qu'il y a des évolutions. Par exemple, on l'a vu, la vidéo sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, c'est devenu comme ce qui est un peu indispensable, le format carré en particulier. Les vidéos live, bon, c'est toujours intéressant, mais c'est moins intéressant, ça a moins d'impact qu'auparavant parce qu'il n'y a plus la notification comme il y avait auparavant. Donc, la vidéo live, c'est important, mais est-ce que dans votre ligne éditoriale, vous dites, tiens, est-ce que je dois faire un live ou pas? Quand je dois annoncer dans mon dispositif de promotion que par exemple j'ai un événement, un web séminaire, etc., etc. Donc votre ligne éditoriale, moi, elle me sert aussi à ça, hein. C'est pas juste la partie publication, c'est la partie promotion également. Voilà, donc ça permet revoir sa ligne éditoriale, permet de se dire comment je dois revoir mes contenus face à l'évolution du web et de la société. Par exemple, là, moi j'ai lancé plusieurs bots, hein, un bot sur ma page Facebook, parce qu'un bot Messenger, c'est un moyen de communiquer directement avec ses fans. Et en fait, le bot Messenger, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes obligé de revoir votre manière d'écrire. Dans un bot Messenger, vous ne pouvez pas écrire comme dans un email, vous pouvez même plutôt tutoyer, je dirais. Alors, ça dépendra de votre cible. Mais en fait, vous devez vous mettre en interaction, vous devez mettre en conversation, vous devez mettre en mode lydique, vous devez réduire fortement les textes. Et c'est un vrai travail, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, ma ligne éditoriale est très centrée sur l'écrit type blog, mais ma ligne éditoriale est en train de changer et bientôt je vais intégrer un petit volet bot Messenger où je vais en fait expliquer comment je dois parler à mes clients sur Messenger parce que c'est pas la même conversation. Sur Messenger, je tutoie, je mets des émoticônes, je mets des boutons, je mets ceci, je mets cela. C'est une conversation qui est totalement différente et une mini ligne éditoriale qui est totalement différente. Voilà. Donc on va vraiment faire adapter cette ligne éditoriale, l'évolution des médias sociaux. Par exemple aussi, la taille des articles. Il y a, allez, 5 ans, un article de 1000 mots pouvait être suffisant pour se positionner sur une expression, on va dire, classique standard. Maintenant, il faut plutôt 4500, voire 5000, voire 10 000 mots et encore plus de backlinks. Donc c'est vraiment important de faire évoluer sa ligne éditoriale de manière régulière, très très régulière. Et la ligne éditoriale aussi doit être en phase avec tout ce qui est... Je dirais tout simplement la partie branding, charte graphique. Les logos, les couleurs, tel type d'image, est-ce qu'on met tout est-ce qu'on met nous, est-ce que je mets je, quelle est la liberté sur l'illustration, est-ce que les vidéos sont soumises aux mêmes contraintes, comment on répond en tant que community manager aux demandes, parce que c'est pas du tout la même chose. Une ligne éditoriale aussi comprend cette partie réponse aux demandes. Et ça, je vous donnerai un exemple juste après sur la partie différenciation du ton. Le ton est vraiment important. Et là, vous le définissez dans votre ligne éditoriale. Donc l'orientation, la structure des contenus, c'est également aussi quelque chose qui est important. Qu'est-ce que vous devez mettre en termes de intro? Moi, par exemple, dans l'intro, je mets toujours au début un petit résumé. Voilà ce que vous allez voir dans l'article, avec les mots-clés sur lesquels l'article est positionné au départ, pour que dans le moteur de recherche, en fait, on voit bien que c'est l'expression la plus importante. Quand on va chercher dans Google et qu'on va voir le résultat, il y aura mes expressions. J'ai mis également des étoiles avec Kaka Star Rating, qui est un plugin WordPress, et à chaque fois je dis que je dois voter pour moi-même au moins une fois et je laisse voter les autres pour avoir au moins 5 étoiles dès le départ. Donc tout cela va vous permettre de savoir comment écrire. Donc le ton, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment un des aspects fondamentaux qui vous permettra de vous différencier des autres. Parce que tout le monde peut parler de web marketing, tout le monde peut parler de content marketing, tout le monde peut parler de growth hacking. Par contre, la manière dont on va le faire va être différente. À chaque fois, on dit toujours, toutes les histoires du monde ont déjà été écrites et racontées. Ce qui change, c'est la manière de la présenter. Voilà. Si vous regardez le schéma habituel du storytelling, The Hero Journey, c'est la même entre Harry Potter, entre Star Wars, c'est toujours la même chose. C'est un héros qui est ordinaire, un jour il fait une rencontre, il a un objet magique qui l'aide, et il a un challenge, et il a un ennemi, et ceci et cela. On est toujours sur les mêmes histoires, mais c'est une manière différente de le faire. Et le ton permet véritablement de créer une connexion du relationnel avec votre cible. Chaque mot a véritablement un sens. Il faut l'appeler et l'utiliser au bon moment pour convaincre la bonne personne. Voilà. Donc tout simplement, vous allez voir un petit peu quelle est la personnalité, l'image que vous voulez donner. Et là, en fait, à ce moment-là, vous allez adapter votre ligne éditoriale. Par exemple, soit en fait, imaginons que vous ayez dans votre ligne éditoriale une manière de répondre en fait aux personnes. Soit vous pouvez avoir une ligne éditoriale très personnelle. Par exemple, je réponds à quelqu'un qui a fait une suggestion. La réponse peut être très bien. Merci Sébastien, votre suggestion pour les liens ajoutés dans notre article sur la ligne éditoriale est vraiment intéressante. Nous ne manquerons pas de transmettre cela à Frédéric qui gère le blog chez nous afin qu'il puisse en tenir compte. Si vos suggestions sont retenues, nous vous tiendrons au courant très rapidement via le commentaire. Merci encore pour le temps passé à nous remonter vos suggestions. A contrario, une réponse peut être très corporate et donner un effet qui est totalement différent. Par exemple, la même réponse à un commentaire, peut-être, votre suggestion a bien été enregistrée et l'un des membres de notre équipe prendra contact avec vous dans les 2 jours ouvrables. Voyez, on n'est pas du tout dans la même chose. Avant, on parle de la personne, on dit bonjour, merci Sébastien, on lui dit c'est Frédéric qui gère, etc., etc. Donc on a un ton qui est différent et pourtant, en fait, c'est la même réponse, en fait. On fait la même chose. On répond aux personnes en lui disant tiens, merci pour la réponse, enfin pour la suggestion, on va te répondre bientôt. Et donc, en fait, dans les deux cas, on ne va pas avoir le même relationnel, on ne va pas avoir le même lien, on ne va pas avoir le même pouvoir de convaincre. Et donc ces deux exemples qui sont un petit peu extrêmes montrent qu'en fait, on peut créer facilement de la proximité avec des gens. Donc il y a deux personnes que j'aime bien qui fonctionnent un petit peu là-dessus et qui utilisent un petit peu justement une ligne éditoriale qui est différente. Par exemple, vous avez Antoine BM, Antoine Blanche-Maison, qui utilise beaucoup le storytelling et les sentiments pour créer de la proximité avec ses lecteurs. Si vous êtes abonné à sa newsletter, je vous invite à le faire, c'est vraiment intéressant. Et par exemple, là, il a sorti un email il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Qui a l'impression de subir sa vie ?» Et là, il raconte sa life, il dit « À 17 ans, je subissais ma vie. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Je détestais le lycée, mais j'étais contraint d'y aller chaque matin. Je rêvais de prendre mon appart, mais je ne gagnais pas d'argent. J'aurais bien aimé être en couple, mais j'avais aucune opportunité amoureuse. Blablabla. Bla, 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 bla. » Donc en fait, là, c'est un exemple. Il est en mode storytelling, et ça peut être une manière de faire. Un autre exemple aussi, c'est Vincent Cairi, qui est assez marrant, puisqu'en fait, il part vraiment à contresens des gourous du web et des blogueurs habituels. En fait, à chaque fois, il critique les blogueurs, il critique les gens. Tiens, il y a des gens qui vous disent de faire ça, il y a des gens qui vous disent de faire ci. C'est son parti pris. Et il n'hésite pas en fait à taquiner ses lecteurs, à se moquer un petit peu d'eux, à dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, éviter de faire ceci, cela. Donc c'est vraiment une ligne éditoriale qui est totalement différente. Vous voyez, il est capable de dire c'est embêtant de ne pas savoir ce qu'on contient à nos lecteurs sur plusieurs mois. Acheter une promesse, mais c'est bien joli, si le sujet d'un mois ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui se passe? Et là il répond, ô abonné fidèle, et pourtant de peu de fois, j'attends ta frustration, mais je vais te faire une réponse appropriée. Ne t'abonne pas, je ne veux pas t'avoir parmi mes clients d'antigé. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va à contresens de ce que l'on pourrait penser. Et donc lui, il va vraiment sur une ligne éditoriale et une charte de communication qui est vraiment totalement inédite par rapport à tout le monde. Et là, il a une voix différente, il a un ton différent. Et ça vous montre en exemple que bah, on peut vraiment faire différent. Et pour les deux, ils font du marketing, hein, ils vendent des produits marketing, etc. Et pourtant, ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre et ils sont à l'opposé de la plupart des choses que font la plupart des gens qui travaillent dans le marketing. Donc, vous savez que vous devez apprendre à casser les codes et pas être trop lisse en fait. Vous devez vous différencier, vous devez être en phase, vous devez faire réagir en bien ou en mal, mais la personne doit avoir de l'émotion. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai mis de l'émotion un peu plus dans mes contenus. Je dis etc., etc. Je raconte des histoires, etc. Pour autant, c'est pas forcément le cas pourtant, hein, pour tout, hein, et pour vous peut-être pas. Si vous êtes dans le B2B, par exemple dans le domaine bancaire ou dans le domaine très sérieux, bah, vous aurez un petit peu de mal hein, à adopter ce ton-là qui est complètement décalé, parce que ça fera complètement incohérent. Donc vérifiez bien que c'est vraiment en phase avec ce que vous voulez en fait faire passer comme message. Très important. Donc, ce qui est important, c'est la constance. Hein. Vraiment, inspirez-vous de vos textes pour mettre en place votre charte graphique, vos emails, par exemple, vos SMS, etc., etc., etc. Vous pouvez prendre en fait un exemple sur frishti.co qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, tout simplement, ils mettent de l'humour du second degré partout sur leur site internet, les SMS quand les livreurs sont en retard de livraison. Vous pouvez voir par exemple sur leur site web, il y a marqué « La saison de la raclette est ouverte » ou « Victor, de quoi avez-vous envie ?» Vous voyez, c'est une manière d'écrire, une manière de produire du contenu qui est totalement différente parce qu'en fait, il tutoie. Il vous voit plutôt et en fait il parle des noms avec des prénoms des personnes, il parle en fait d'envie, qu'est-ce que vous avez envie, et c'est pas qu'est-ce que vous voulez commander comme produit quoi, c'est un petit peu différent, voilà. Et là derrière c'est j'ai faim maintenant, des envies d'ailleurs, j'ai une réunion, je veux faire des courses quoi. On est vraiment sur orienté customer. C'est aussi le cas par exemple pour Michel et Augustin qui se différencient de leurs concurrents par de bons produits, bon certes, hein, les produits sont pas mal, mais surtout par une communication décalée. Je pense que leur succès vient plus de la communication décalée que de leurs produits en eux-mêmes. Par exemple, ainsi, Michel et Augustin ne parlent jamais de clients ni de produits, ils parlent de gourmands et de recettes. Et vous voyez, ils se mettent en scène, ils racontent des trucs et tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment une autre manière de produire du contenu. On est vraiment là pour faire la différence, et pas uniquement par le texte, mais par la manière de parler, par les mots qui sont employés. Voilà. Donc évitez, par exemple, le blabla. Moi, je vous dis clairement, j'essaye de réduire un maximum tout ce blabla, le truc pas très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé, par exemple, une boîte qui travaille dans le B2B, et qui a plutôt des clients grands comptes. Et c'est vrai que moi, j'avais écrit un contenu avec ma charte habituelle, et c'est vrai que comme ils l'ont rewrité, ils m'ont réécrit, ils me disent, non, mais on a réécrit quelques trucs pour soit plus en ligne avec notre charte éditoriale, voilà, notre ligne éditoriale, et c'est vrai que le contenu, c'était en outre, quanto au-delà de ceci, mais c'était pas du tout dans ma charte graphique à moi, ma charte plutôt éditoriale, hein. Mais pourtant, en fait, C'était dans leur monde. Et pour eux, ils voulaient avoir un truc corporate, très lisse, en bon français, etc. Bon, moi, personnellement, je pense que cette époque-là a un petit peu révolu parce que les gens, ils ont plus le temps de relire des contenus chiants, des contenus rébarbatifs, des trucs un petit peu guindés. Je pense qu'il faut aller déclencher de l'émotion. Il faut, en fait, faciliter la lecture, éviter le jargon. Voilà, moi sur le conseil marketing, je dis généralement ce que je pense. Et c'est important comme ça d'avoir comme ça un point de vue qui est vraiment tranché. Alors la première étape, c'est tout simplement ici d'aller écrire et formaliser votre USP, Unique Selling Proposition, c'est-à-dire en quoi vous êtes différent des autres. En fait, c'est tout simplement le moyen que vous aurez de savoir comment vous allez vous différencier de vos concurrents, à la fois via vos contenus, via votre ton, etc., etc. En fait, l'Unique Selling Proposition, c'est tout simplement ce que vous faites de bien et ce que le client veut, et ce que les concurrents ne font pas forcément. Voilà, ça c'est assez important. Parce que si vous faites la même chose que vos concurrents, bon bah c'est pareil. Si vous faites quelque chose que vos concurrents font et que les clients ne veulent pas, ça sert à rien. Si vous faites la même chose que vos concurrents sur la même zone d'intérêt que les clients, forcément ça va pas aller. Donc en fait, vous allez vraiment vous différencier et savoir en quoi vous allez avoir une ligne éditoriale différente. C'est peut-être votre ton, votre voix, votre style d'écriture, le format. Ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être énormément de choses. Par exemple, moi je me suis amusé à un moment donné à faire des vidéos un peu plus originales, en fait en mode Fast and Furious ou de Combini ou Express à la brute. Je l'ai fait, alors c'est un peu compliqué, ça prend du temps, mais ça peut être quelque chose comme ça. Moi, ma ligne éditoriale, c'est le conseil marketing, hein, c'est écrire des contenus longs, de contenus détaillés, aller vraiment dans le détail. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui expliquent pourquoi il faut le faire et n'expliquent pas vraiment comment on le fait. Et donc, moi j'essaie souvent de me concentrer là-dessus, comment on le faire avec un mode d'emploi. Alors, c'est plus compliqué, mais c'est un moyen en fait de se différencier, parce que tellement de gens restent dans le superficiel, moi je préfère aller dans le détail. Il y a aussi une autre personne que je connais qui m'a dit, voilà, moi je suis dans le coaching, mais dans le coaching je donne pas des méthodes. Moi ça m'intéresse pas de donner des méthodes, des trucs et des choses comme ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le savoir-être, c'est plutôt la posture, c'est plutôt en fait l'aspect macro, c'est l'aspect stratégique, et en fait ça le distingue des autres, parce qu'en fait il va pas coacher les autres d'une manière assez classique où on va donner des recettes pour parler en public, faire ceci, faire cela. Non, il va vraiment s'intéresser au savoir-être, et c'est vrai que le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué à copier. Voilà. Donc le but en fait avec cette étape 1, c'est de définir ce qui sera votre force. Comment vous, hein, avec vos capacités, vous êtes peut-être bon à l'oral, bon à l'écrit, vous avez une sacrée expérience, vous êtes bon en vidéo, vous aimez ça, enfin bref, comment vous allez vous distinguer de vos concurrents? Est-ce que c'est des experts de votre entreprise? Est-ce que c'est parce que vous allez faire beaucoup de contenu, vous allez faire beaucoup d'actu? Bref, qu'est-ce qui va être votre fer de lance et qui va vous différencier? Voilà, ça c'est votre première action lors de l'étape 1. Étape numéro 2, c'est définir votre vision, votre mission dans votre ligne éditoriale. J'ai déjà expliqué tout à l'heure la vision et la mission, hein, c'est vraiment le cœur de votre business. La vision, c'est le pourquoi vous lancez. Pourquoi en fait vous avez décidé de lancer votre business et pourquoi vous avez créé votre entreprise en fait? Moi par exemple, si j'ai créé Conseil Marketing, c'est tout simplement que ma vision c'est que les Français étaient vraiment en retard par rapport aux États-Unis et qu'il fallait en fait aider les gens à développer leur business. Donc moi ma vision c'est voilà, Internet c'est un des meilleurs moyens de diffuser la connaissance et aider les gens à être beaucoup plus efficaces pour créer leur boîte. Ma mission c'est quoi? C'est comment je vais le faire. Et comment je vais le faire en fait? C'est en particulier via un blog, via des vidéos, via un podcast, et en fait des articles super détaillés où j'explique vraiment comment ça se passe. Et ensuite, tout simplement, cette mission, hein, on va la décliner en année et en stratégie annuelle. Par exemple, moi, pendant toute cette année-là, j'étais plus orienté sur la création, la conversion, la création de nouveaux produits, l'écriture d'un nouveau bouquin et la mise à jour d'un autre bouquin. Voilà, ça, c'est la stratégie annuelle. Et après, il y a des actions concrètes qui sont déclinées par rapport à cette stratégie annuelle. C'est bon, voilà, cet été, moi, par exemple, je vais écrire un nouveau bouquin sur les chatbots qui va en fait sortir. Et donc, pour faire ce bouquin, j'ai fait déjà 80 pages sur comment mettre en place un chatbot marketing. Je vais créer une nouvelle formation vidéo sur les chatbots très prochainement, etc., etc. Et donc, ça fait partie de mon plan. Je vais aussi sans doute sortir une V2 du livre Le Growth Hacking, sans doute en 2020 ou 2021. Enfin, en tout cas, il y aura des choses qui vont être faites. Voilà. Donc, ça, c'est des actions qui sont liées à la stratégie globale. Donc, n'oubliez pas, vous avez votre vision. La vision, c'est le pourquoi en fait. Voilà. pourquoi vous faites tout ça. La mission, c'est comment vous allez le mettre en application. La stratégie, c'est comment vous allez faire dans l'année. Et les actions marketing, c'est comment vous allez le mettre au quotidien. Donc la ligne éditoriale découle véritablement de la vision et de la mission. Pour Conseil Marketing, comme je vous le disais, ma vision, c'est d'aider les entreprises. Et comme ça, en fait, je décline tout. La ligne éditoriale, donc, doit être au service de la vision, au service de la mission et d'aider à l'accomplir. Par exemple, moi, j'ai, dans ma ligne éditoriale, comme je me dis, ben voilà, je dois aider les gens, à chaque fois, je dois mettre dans mes articles des conseils concrets et pratiques, pas faire de blabla, et faire en sorte que les gens, ils apprennent quelque chose d'utile. Et à chaque fois, moi, quand je lis un de mes articles, je me dis, mais putain Fred, est-ce que toi, si tu en lis tes propres articles, tu aurais appris quelque chose? Je me dis, waouh, même moi, j'ai appris un truc intéressant à la fin de la rédaction de mon article. Donc, pour y arriver, je dois donc chercher mes connaissances, et dans ma ligne éditoriale, il y a le fait de réfléchir sur des exemples, de mettre des plans d'action, de dire, expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, là, comme je dis, étape 1, action, etc., etc. D'aller chercher les informations sur d'autres supports. Hein. Parfois, je vais demander à des amis, je vais faire de la recherche documentaire sur Google, je vais lire des articles, je vais lire des bouquins. Et en fait, grâce à ça, en fait, tout simplement, que je vois en fait que j'ai un process complet. Et je vais tout simplement écrire cette ligne éditoriale qui comprend ces éléments-là. Donc, votre action à cette étape numéro 2, elle est très simple. Écrivez votre vision. Écrivez votre mission et comment votre ligne éditoriale doit vous aider à la mettre en application. Voilà. Étape numéro 3, on va tout simplement revoir son persona et les cibles prioritaires pour votre ligne éditoriale. C'est vraiment important de faire ça, hein, définir ses clients types, les personas qui correspondent le mieux possible à vos clients idéaux. C'est là en fait que vous allez pouvoir vraiment produire du contenu qui va les faire vibrer, qui va les faire réveiller. Moi, par exemple, comme je le disais sur Conseil Marketing, hein, je me suis recentré sur le growth hacking, le content marketing, le blogging et les réseaux sociaux. J'ai abandonné tout ce qui est e-commerce pour me ressembler sur me recentrer plutôt sur ma cible principale. Là, sur le site, ben voilà, on ne parle plus beaucoup d'e-commerce, on ne parle plus de ceci, cela. Je le fais de manière vraiment très opportuniste, mais autrement, maintenant, c'est fini. Et justement, grâce à ma ligne éditoriale, j'essaye d'éviter de plus en plus d'avoir ces petites tentations de faire de l'opportunisme avec des gens qui me disent tiens, ce serait bien de faire ceci, faire cela sur l'e-commerce. Je dis non, ma ligne éditoriale, désolé, elle a changé, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Dans votre ligne éditoriale aussi, vous pouvez adresser qui est votre cible. Est-ce que c'est un débutant ou un expert? Ça change totalement aussi le look de vos contenus, le look de vos articles. Si vous faites de la vulgarisation, vous adressez à des gens qui ne sont pas forcément très au fait. Par contre, si vous adressez à des experts ou à des moyens, des gens qui sont moyens, et bien en fait, les gens intermédiaires, ils n'ont pas les besoins, ils ont pas de besoin dans les trucs basiques. Ils connaissent déjà les choses, vous pouvez aller plus dans le détail. Par contre, ils seront beaucoup moins nombreux. Donc si vous vendez à des gens moins nombreux, il faudra vendre des produits plus chers et vendre des prestations beaucoup plus onéreuses. Il n'y a pas le choix. Donc votre action pour cette étape 3, c'est simple. Définissez qui sont vos clients cibles pour créer du contenu qui va résonner en eux. Voilà. Étape numéro 4, définir les sujets principaux et les sujets secondaires abordés dans la ligne éditoriale. En fait, c'est simple. Un blog doit être spécialisé sur un persona qui a un problème précis. Alors, ça, j'aime pas le terme thématique, parce que quand on parle de thématique, on va dire je parle de blogging, je parle d'e-commerce, etc. Non, votre cible. Donc, votre cible, c'est quoi? C'est tout simplement la personne qui a un problème. Comme je le disais, les débutants n'auront pas du tout les mêmes problématiques que quelqu'un qui est avancé. Si vous adressez, du marketing en ligne, et ben en fait, si vous adressez, je vais parler de marketing B2B, ça va pas être la même chose que je vais parler du marketing B2B dans le secteur des logiciels. Ça va être totalement différent. Je m'adresserai à une cible qui est beaucoup plus petite, hein, mais au moins, j'en serai une référence. Voilà. Et après, je pourrais même les contacter directement, par exemple, faire des interviews de personnes qui travaillent dans ce secteur-là pour me faire connaître, etc. etc. C'est vraiment important d'avoir cette volonté d'être différent et de se différencier parce que voilà, moi je dis toujours que imaginez que vous vouliez faire garder vos enfants. Et là en fait, il y a quelqu'un qui dit si vous voulez, moi je peux garder vos enfants. En plus, vous savez, je sais faire le ménage et je suis capable de faire la lessive et le repassage. Bon, jusque-là, vous dites bon, pourquoi pas. Mais en même temps, si elle vous dit je sais aussi, en même temps que vous occupez votre gamin, de faire un petit peu de bricolage, je peux vous faire de la peinture, je fais un peu de plomberie, d'électricité, et puis quand votre fille va dormir, je pourrais même aller dans le jardin faire un peu de tondeuse et puis couper quelques arbres. Là, vous direz, mais attends, non, désolé, moi j'ai besoin vraiment qu'une nounou fiable pour garder mes enfants parce que j'ai pas envie que vous soyez à l'autre bout du jardin si elle pleure et des choses comme ça. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il vaut mieux être de quelqu'un de confiance dans une thématique que quelqu'un qui prétend tout faire bien parce que c'est pas possible de tout faire bien. Il faut mieux être spécialisé. Donc choisissez votre thématique, votre sujet qui va résonner vers votre cible. Voilà. Vous ne devez pas écrire sur une thématique en général, mais pour une personne cible. Voilà. Tout simplement, grâce à ça, vous allez vraiment vous dire, bah, mon client, c'est tel type d'entreprise, tel type de particulier, et voilà pourquoi j'écris pour lui. Voilà. Le link éditorial aussi permet de prendre les bonnes décisions et continuer à le faire sur le long terme, parce que vous saurez à qui vous adresser. Donc voilà. Moi, je vous conseille également de travailler sur la génération des mots-clés. J'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle « 4 étapes pour bien choisir ses mots-clés ». C'est un peu complémentaire et même c'est totalement complémentaire à ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, là, on est vraiment dans, entre guillemets, dans les thématiques abordées qui sont liées à vos cibles. Mais il faut maintenant décliner ça en mots-clés, en besoins, en expressions. Et donc en fait là il faut travailler sur ce qu'on va mettre dedans, les mots-clés qui soient stratégiques, c'est-à-dire que c'est des mots-clés qui n'ont pas pour l'instant beaucoup de volume, mais qui sont importants. Par exemple, moi je me suis positionné sur le terme NPS, sur le terme chatbot, callbot, qui ne sont pas des termes forcément à des gros volumes, mais c'est des mots-clés sur lesquels je veux absolument me positionner. Et après, il y a des mots-clés plus courants, comme par exemple LinkedIn, hein, parce que j'ai fait des formations LinkedIn, etc. Voilà. Donc votre plan d'action pour l'étape numéro 4, elle est simple. Listez les thématiques et expressions stratégiques pour attirer vos prospects types. Voilà. Vous regardez les thématiques clés, hein, et ensuite vous allez choisir les mots-clés. Vous déclinez en fait expressions mots-clés. Voilà. Et pas que des mots-clés très recherchés, comme je disais, il y a des expressions un peu stratégiques. Consultez mon article, hein, ou tapez dans Google 4 étapes pour bien choisir ces mots-clés SEO. Voilà. Étape numéro 5 sur 8, c'est le rythme de publication et le calendrier éditorial. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de se dire, voilà, je vais établir un calendrier éditorial, même très simple, en disant, bah voilà, par exemple, je fais un podcast tous les semaines. C'est à peu près ce que je tenais comme rythme. Là, il y a eu les vacances, donc j'étais un petit peu plus light. Je fais généralement un article par semaine et je retranscris également des podcasts régulièrement. Donc voilà, donc c'est une routine que moi, je m'impose pour garder en fait le rythme et la confiance en mes lecteurs. Donc voilà, le calendrier éditorial est vraiment l'outil qui vous permettra de vous organiser, savoir quand est-ce que vous voulez publier. Par exemple, votre calendrier éditorial peut inclure des dates de publication, le sujet abordé, le mot-clé sur lequel est positionné l'article, la cible de l'article, les objectifs de l'article, les canaux de diffusion, est-ce que c'est un blog, un site de blog, est-ce que c'est sur YouTube, les appels à l'action qu'il y aura à la fin, les outils de conversion, par exemple un bonus à télécharger, et le dispositif de promotion. Voilà. Par exemple, si vous voulez programmer votre calendrier éditorial, vous pouvez utiliser Trello, Google Sheets, CoSchedule, Gather Content, Asana, Rike, Monday.com, Loomly, etc., etc. Voilà. Donc très simple, votre plan d'action pour le chapitre et l'étape numéro 5, c'est définir votre calendrier éditorial sur 2 mois avec les contenus à créer. Généralement 2 mois ça suffit un petit peu pour aborder ces principales thématiques. Après vous le ferez évoluer avec des grandes thématiques. Moi j'aime bien travailler en trimestre. L'intérêt de travailler en trimestre, c'est qu'en fait vous allez vraiment faire un sprint sur telle thématique, vous allez faire un focus et après vous passerez sur un autre focus. Ça permet vraiment de travailler dans le temps et voir des résultats. Voilà. Étape numéro 6, là on est vraiment dans la structure des contenus, on n'est plus uniquement dans les mots-clés, etc. On va vraiment travailler sur la structure de l'article ou des vidéos. Donc par exemple, quelle est la longueur minimale? Moi je sais que en dessous de 1000 mots, je crée rarement des articles, ou alors c'est des articles métiers très précis. Comment vous allez structurer le titre? Par exemple le mot-clé en premier ou des choses comme ça, vous allez écrire des comment. Quel est le plan type d'un article? Moi je sais, j'ai un plan type à peu près classique. Souvent c'est des étapes ou des choses comme ça. Où et comment vous allez mettre des en-têtes, des sous-paragraphes, etc. Est-ce que vous mettez des images systématiquement après des sous-titres? Est-ce que vous mettez des vidéos? Est-ce que vous mettez des liens externes? Qu'est-ce que vous mettez en type d'appel à l'action? Est-ce que vous faites des liens vers des sites externes ou vous faites surtout des liens vers vos propres articles? Quels sont en fait les types d'images et de photos que vous allez mettre? Moi je suis beaucoup orienté dessin. Et illustrations plutôt que des simples photos classiques. Est-ce que vous pouvez inclure des témoignages, etc., etc. Voilà. Donc moi, les règles, j'en ai fait, et surtout j'ai fait des règles simples. Parce qu'en fait, si vous avez des règles trop compliquées dans votre ligne éditoriale, vous allez galérer. Par exemple, moi, je sais qu'un article de blog doit faire 1500 mots minimum, sauf si ce sont des mini-tutos. Et en fait, le mot-clé, il est dans le début du titre de l'article, il est dans le premier paragraphe. Les paragraphes, je sais que j'essaye de mettre une idée par paragraphe. J'essaye en fait de mettre des puces et des numéros. J'essaye de répondre aux questions pourquoi, où, comment, pourquoi, avec qui, combien, etc., etc. J'essaye d'avoir un contenu qui est le plus intemporel possible, ce qui m'oblige en fait à ne pas mettre de date. J'essaye de citer des sources pour les images ou alors les acheter tout simplement sur des banques d'images. Voilà. Donc après, vous avez le ton, on a déjà parlé tout à l'heure, hein. Est-ce qu'on veut paraître sérieux, pragmatique, léger, etc. Est-ce qu'on parle à je ou on dit nous? Est-ce que vous utilisez le vous ou le tu? Quels acronymes vous pouvez utiliser? Est-ce que vous avez le droit de parler des concurrents, etc., etc. Voilà. Donc le but en fait, c'est d'avoir un contenu qui soit surtout scannable, puisqu'en fait, on sait très bien que les gens, ils aiment bien lire un contenu facile. Donc vous devez vous concentrer là-dessus. Donc dès les premières lignes, votre lecteur doit comprendre ce que vous dites. Il doit pas prendre. En fait, vous devez lui faciliter le travail. S'il doit lire 5, 6, 7, 8 lignes pour comprendre ce que, de quoi vous allez parler, ce qui va, le bénéfice qu'il va en tirer, ce qu'il va apprendre à la fin, c'est trop long. Vous devez lui dire dès le départ, ok, tu vas apprendre ça, ça et ça et ça. Voilà. Votre public s'attend à ce que vos contenus soient longs ou pas. Un contenu plus long nécessite peut-être des citations, des images ou des choses comme ça. Bref, jusqu'à où vous pouvez dire stop. Moi, je sais que des fois, je me suis mis des limites pour me dire, ok, non, mais c'est bon, j'arrête maintenant de cet article-là. Autrement, je vais en faire une encyclopédie. Je mets des deadlines. Par exemple, je sais que j'ai jusqu'à, par exemple, dimanche soir pour produire un article et pas plus tard. Voilà. Et ça me permet d'éviter de produire, 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 produire. Voilà. Donc, sur quel lien vous mettez des articles? Est-ce que vous faites des vidéos? Quel est le processus de révision avant la publication? Est-ce que vous faites une relecture? Par exemple, moi, souvent, je copie-colle dans Word et je passe le correcteur orthographe. Est-ce qu'il y a une procédure de validation si vous êtes dans une grande entreprise? Est-ce que vous avez vérifié tout ce qui est droit d'auteur, etc., etc. Bref. Voilà. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est décrire à quoi doit ressembler la structure type d'un article et ce que vous allez faire pour donc le publier et en faire la mini promotion en fait. L'étape numéro 8, c'est tout simplement les contraintes techniques et les contraintes d'optimisation de référencement. Donc en fait, ça c'est un aspect qui est trop souvent négligé, c'est qu'en fait les gens ils parlent pas en fait de tout ce qui est technique. Et pourtant c'est pas très compliqué, hein. Comme je vous le disais, le titre généralement ben voilà il faut les mots-clés qui soient dedans. Dans la description qui apparaît généralement dans Google, eh ben, il faut l'optimiser. Est-ce qu'il y a un certain nombre de répétitions que vous acceptez de faire? Est-ce qu'il y a des tests en fait de pertinence et de densité de mots-clés. Et en fait, pour cela, moi, je vous invite à utiliser des plugins, en particulier Yoast SEO ou RankMath SEO. Donc, c'est un nouveau plugin en fait que j'utilise, un plugin qui s'appelle RankMath SEO, qui est assez sympa et qui vous permet de vérifier justement si votre contenu est conforme en référencement. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé parfois de devoir faire quelques petites modifs pour essayer d'avoir un score minimum de 70, 80 pour en fait être sûr que mon article sera bien référencé pour l'expression. Voilà. Donc ça aussi, ça va vous servir à guider vos futurs rédacteurs vers le contenu idéal que vous souhaitez faire. Donc votre plan d'action pour cette étape 7 est simple. Définissez les éléments SEO à mettre en place avant de publier un article. C'est très simple. Souvent même, il suffit d'installer un plugin WordPress, comme je vous disais, c'est RankMath SEO ou Yoast SEO, et c'est lui en fait qui va vous aider à vérifier cette partie-là. Ensuite, la huitième partie, et ça c'est une partie que j'ai rajoutée au fil de l'eau avec l'évolution de ma ligne éditoriale, c'est les choses à plus faire et à faire. En fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a en fait l'habitude de faire un certain nombre de choses. Par exemple, moi j'avais l'habitude de, ok, je fais de l'opportunisme. Par exemple, j'avais comme règle dire, bon, allez, j'en ai marre, je vérifie pas l'article, je le publie. J'avais comme règle auparavant de prendre des images drôles. Maintenant, je vérifie en fait que ces images, j'ai bien le droit dessus, j'ai acheté des images pour cela, etc., etc. Donc en fait, c'est tout simplement les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes, et ça en fait, ça va vous aider et vous guider. Rien que le fait de l'écrire, c'est un élément clé. Voilà, donc grosso modo, une ligne éditoriale comprend les objectifs du blog, l'USP, le persona, les sujets abordés. Concernant la publication et le calendrier rédactionnel, c'est des sujets opportunistes, des sujets à ne plus aborder, des contraintes techniques, la structure de macro des textes et des vidéos, la routine après la publication, les éléments techniques SEO, le processus de publication d'un article avec, encore une fois, ce que vous allez faire pour le publier, dans quel cadre, est-ce que vous l'envoyez sur la newsletter, ou des choses comme ça. Et en fait, s'il y a des cas spécifiques, par exemple les articles invités, les interviews, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc voilà, ce petit enregistrement était là pour vous guider dans la ligne éditoriale. Le but, en fait, c'est de vous guider, vous aider à produire du contenu qui soit beaucoup plus efficace. Donc si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à suivre ma formation vidéo qui s'appelle Content Hacking, que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Attention, le prix va bouger, il va faire x2 fin juillet, début août. Et c'est une formation justement qui vous explique comment créer du contenu facilement, du contenu qui va marcher et qui va attirer du trafic. Donc rendez-vous sur ma formation, vous tapez formation content hacking et tout simplement je vous expliquerai mes petits secrets pour créer du contenu qui va générer du trafic via le web mais également les influenceurs. Allez, à bientôt, ciao ciao.